Audible Studio présente L'échiquier du mal, tome 2, de Dan Simmons, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck, lu par Juliette Croizat et François Montagu. Livre 3e. Final. Je m'éveille et je sens la chute des ténèbres, et non le jour. Gérard Manley Hopkins. Chapitre 36. Dothan, Alabama, mercredi 1er avril 1981. Le Centre mondial de diffusion de la Bible, 23 bâtiments d'un blanc étincelant dispersés sur un terrain de plus de 60 hectares, se trouvait à 8 km au sud de Dothan. Le centre du complexe était le Palais de l'Adoration, une monstruosité de verre et de granit, un amphithéâtre climatisé et somptueusement moquetté, capable d'accueillir 6000 fidèles dans le confort le plus total. Les 800 mètres en courbe du boulevard de la Foi étaient pavés de briques dorées, argentées et blanches, représentant respectivement des dons de 5000, 1000 et 500 dollars. Les visiteurs qui survolaient le boulevard de la Foi, peut-être à bord d'un des trois jets privés du centre, pensaient souvent à un large sourire blanc orné de plusieurs dents en or et d'une rangée de plombages en argent. Le sourire devenait chaque année plus large et plus doré. Situé sur le boulevard de la Foi, en face du palais de l'Adoration, le centre de communication biblique, un bâtiment long et bas, aurait pu être pris pour une usine d'informatique ou un centre de recherche sans la présence de 6 énormes antennes paraboliques posées sur son toit. Le centre affirmait que son programme permanent, transmis par l'intermédiaire de ses 3 satellites à des chaînes câblées, à des stations locales et aux stations appartenant à l'Église, était diffusé dans plus de 90 pays et suivi par 100 millions de téléspectateurs. Le centre de communication abritait également une imprimerie entièrement informatisée, une usine de pressage de disques, un studio d'enregistrement et 4 ordinateurs reliés au réseau mondial d'information évangélique. Là où s'achevait le sourire blanc, doré et argenté, là où le boulevard de la Foi sortait du périmètre de sécurité pour devenir la départementale 251, se trouvait l'université biblique Jimmy Wayne Sutter et l'école chrétienne d'études commerciales Sutter. 800 étudiants fréquentaient ces 2 établissements non reconnus par l'État, et 650 d'entre eux vivaient sur le campus, hébergés dans des dortoirs où la mixité était interdite, et que l'on avait baptisé Roy Rogers, Dale Evans et Adam Smith. D'autres bâtiments, des immeubles aux façades de granit et aux colonnes de béton évoquant des églises baptistes modernes ou des mausolées nantis de fenêtres, abritaient les bureaux où travaillaient les légions d'employés de l'administration, de la sécurité, des transports, des communications et des finances. Le Centre mondial de diffusion de la Bible conservait un secret absolu sur ses revenus et sur ses dépenses. Mais personne n'ignorait que la construction du complexe, achevée en 1978, avait coûté plus de 45 millions de dollars. Et à en croire la rumeur, les dons consentis par les fidèles s'élevaient à environ 1,5 million de dollars par semaine. Prévoyant une croissance financière accélérée durant les années 80, le centre se préparait à diversifier ses activités. Et on inaugurerait bientôt le centre commercial chrétien de Dothan, une chaîne d'hôtels du repos chrétien et un parc d'attractions bibliques en cours de construction en Géorgie pour un prix de revient de 165 millions de dollars. Le Centre mondial de diffusion de la Bible était une organisation religieuse à but non lucratif. Les entreprises de la Foi, soumises à l'impôt, avaient été créées pour gérer la future expansion commerciale et pour coordonner les cessions de droits dérivés. Le révérend Jimmy Wayne Sutter était le président du Centre mondial de diffusion de la Bible, ainsi que le président-directeur général, et le seul membre du conseil d'administration des entreprises de la Foi. Le révérend Jimmy Wayne Sutter chaussa ses lunettes à double foyer et monture d'or, et sourit à la caméra numéro 3. « Je ne suis qu'un humble pécheur, » dit-il. « Tout ce galimatia légal et financier me dépasse, Jimmy, dit son second couteau, un homme obèse aux lunettes cerclées d'écailles, dont les bajoues tressautaient chaque fois qu'il s'excitait, comme en ce moment même. Toute cette histoire, ce contrôle fiscal, ces persécutions administratives, c'est de toute évidence l'œuvre de l'ennemi. Mais je sais reconnaître une campagne de persécution, poursuivit Sutter, sa voix montant d'un octave et son sourire s'élargissant, comme il remarqua que la caméra restait fixée sur lui. Il vit l'objectif s'élargir pour un gros plan. Tim McIntosh, le réalisateur qui officiait, avait appris à connaître Sutter en 8 ans et 10 000 émissions. « Et je sais reconnaître la puanteur du diable, et tout ceci empeste le diable. Le diable serait enchanté de faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Le diable serait enchanté d'utiliser le gouvernement pour empêcher la parole de Jésus-Christ d'atteindre ceux qui espèrent son aide, son pardon et son salut. Et cette persécution est de toute évidence l'œuvre de... » commença le second couteau. « Mais Jésus-Christ n'abandonne pas son peuple dans l'épreuve !» hurla Jimmy Wayne Sutter. Il s'était levé et arpentait le plateau, agitant le fil du micro derrière lui comme s'il tirait sur la queue du diable. « Jésus-Christ fait partie de notre équipe. Jésus-Christ domine la partie et va confondre l'ennemi et ceux qui jouent dans son camp. Amen !» s'écria l'ancienne actrice empâtée assise parmi les invités. Jésus l'avait guérie de son cancer du sein, au cours d'une émission publique enregistrée 1 an plus tôt à Houston. « Loué soit Jésus-Christ !» dit le moustachu assis sur le canapé. Durant les 16 dernières années, il avait écrit 9 livres sur l'imminence de la fin du monde. « Jésus-Christ ne se soucie pas plus de ces bureaucrates !» cracha Sutter. « Qu'un noble lion ne se soucie de la morsure d'une misérable puce !»«
Oui, Jésus-Christ !»
soupira le chanteur dont le dernier tube remontait à 1957. Les 3 invités semblaient utiliser la même marque de lac et acheter leurs vêtements en solde dans le même grand magasin. Sutter s'immobilisa, tira sur le fil du micro et se tourna vers le public. Le plateau était immense, eu égard aux normes de la télévision. Plus large que la plupart des scènes de Broadway, il comprenait 3 niveaux moquetés de rouge et de bleu, agrémentés çà et là de bouquets de fleurs blanches. Le niveau supérieur, où se produisaient les chanteurs, ressemblait à une terrasse et était éclairé par une aube perpétuelle, ou un crépuscule, qui faisait flamboyer les 3 vitraux encastrés dans le mur. Le niveau intermédiaire était décoré par une cheminée rougeoyante qui crépitait même quand il faisait 38 à l'ombre à Dothan. En son centre se trouvait un ensemble de fauteuils et de canapés, ainsi qu'un secrétaire Louis XIV, derrière lequel le révérend Jimmy Wayne Sutter s'asseyait d'ordinaire sur un fauteuil à peine plus imposant que le trône des Borgia. Le révérend descendit sur le niveau inférieur, une série de rampes et d'extensions circulaires, grâce auxquelles certaines caméras pouvaient montrer Sutter tel que le voyaient les 600 spectateurs. C'était dans ce studio qu'on enregistrait « Une heure avec la Bible au petit déjeuner », ainsi que « Jimmy Wayne Sutter présente, programme de diffusion de la Bible », l'émission actuellement en cours de tournage. Les émissions nécessitant un plus grand nombre d'invités ou de spectateurs étaient enregistrées dans le palais de l'Adoration ou en extérieur. « Je ne suis qu'un humble et modeste prêcheur, » dit Sutter en adoptant soudain le ton de la conversation, « mais avec l'aide de Dieu et avec la vôtre, nous triompherons de ces épreuves. Avec l'aide de Dieu et avec la vôtre, nous traverserons cette ère de persécution, et la parole de Dieu retentira avec plus de force, avec plus de clarté que jamais. » Sutter épongea son front en sueur avec un mouchoir de soie. Mais si nous voulons rester sur les ondes, mes chers amis, si nous voulons continuer à vous apporter la parole de Dieu, à vous transmettre le message de ses évangiles, c'est de votre aide que nous avons besoin. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin des lettres de protestation que vous enverrez aux bureaucrates du gouvernement qui nous persécutent. Et nous avons besoin de vos offrandes. Nous avons besoin de tout ce que vous pourrez nous donner, au nom du Seigneur, pour nous aider à continuer à vous transmettre la parole de Dieu. Nous savons que vous ne nous laisserez pas tomber. Et pendant que vous répondez à notre appel, pendant que vous remplissez les enveloppes que Chris Kay et Frère Lai vous ont envoyées ce mois-ci, nous allons écouter Gail et les guitares de l'Évangile, accompagnés par notre propre groupe vocal qui vont nous rappeler qu'il n'est nul besoin de comprendre. C'est sa main qu'il faut prendre. Le metteur en scène entama un compte à rebours et fit un signe à Sutter lorsque la pause fut achevée. Le révérend était assis à son secrétaire. À côté de lui se trouvait un fauteuil vide. On commençait à être à l'étroit sur le canapé. Sutter, l'air détendu et apparemment enthousiaste, sourit à l'objectif de la caméra numéro 2. « Mes amis, à propos du pouvoir de l'amour de Dieu, à propos du pouvoir du salut éternel, à propos du don reçu par ceux qui reviennent à la vie au nom de Jésus-Christ, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre nouvel invité. Durant de nombreuses années, celui-ci s'est égaré dans le royaume du péché qui s'étend sur la côte ouest et dont nous avons tous entendu parler. Durant de nombreuses années, cette bonne âme a erré loin de la lumière du Seigneur, dans la sombre forêt de peur et de luxure qui guette ceux qui restent sourds à la parole de Dieu. Mais il est parmi nous ce soir, pour apporter le témoignage de l'infinie pitié de Jésus-Christ, de son amour infini grâce auquel nul d'entre nous n'est jamais perdu s'il souhaite être retrouvé. Venu tout droit de Hollywood, voici le célèbre metteur en scène et producteur, Anthony Harrod. Harrod traversa l'immense plateau, salué par les applaudissements enthousiastes de 600 bons chrétiens qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Il tendit la main vers Jimmy Wayne Sutter, mais celui-ci se leva d'un bond, l'étreignit et lui fit signe de prendre place sur le fauteuil réservé aux invités. Harrod s'assit et croisa les jambes avec nervosité. Le chanteur lui adressa un sourire depuis le canapé. L'écrivain apocalyptique lui lança un regard glacial, et l'actrice empâtée fit une moue d'ingénue et lui envoya un baiser. Harrod portait un blue jean, ses bottes de cow-boy en peau de serpent, une chemise de soie rouge largement ouverte, et son ceinturon avec la boucle à l'effigie de R2-D2. Jimmy Wayne Sutter se pencha vers lui et joignit les mains.
« Eh bien, Anthony, Anthony, Anthony !»
Harrod eut un sourire hésitant et plissa les yeux pour regarder le public. La lueur des projecteurs était si intense qu'on n'apercevait que son reflet sur les lunettes de quelques spectateurs.
« Anthony, vous faites partie du milieu du show business depuis... Depuis combien de temps à présent ?»«
16 ans, » dit Harrod, et il s'éclaircit la gorge. « J'ai débuté à Hollywood en 1964. J'avais 19 ans. J'ai débuté comme scénariste.
Et, Anthony, »
Sutter se pencha en avant, prenant une voix de conspirateur qui réussissait en même temps à être enjouée.
Toutes ces histoires ont-elles un fond de vérité? Ces histoires sur les pêcheurs d'Hollywood, elles ne concernent pas tous les habitants d'Hollywood, bien sûr. Kay et moi connaissons nombre de bons chrétiens là-bas, y compris vous-même, Anthony. Mais en règle générale, Hollywood est-elle une ville aussi pécheresse qu'on le dit ?
Plutôt pécheresse, oui, dit Harrod en décroisant les jambes. C'est assez lamentable.
Des divorces ?
Partout.
De la drogue ?
Tout le monde en prend.
Des drogues dures ?
Oh oui.
De la cocaïne ?
On en trouve partout.
De l'héroïne ?
Oh, même les stars ont des cicatrices, Jimmy.
Y a-t-il à Hollywood des gens qui insultent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ?
Constamment. Des blasphémateurs. Ah, c'est la grande mode en ce moment.
Des adorateurs de Satan?
À en croire les rumeurs.
Des adorateurs du tout-puissant dieu dollar?
Assurément.
Et des gens qui violent le septième commandement, Anthony? Tu ne commettras point l'adultère.
Ah, il est totalement ignoré, à mon avis.
Vous avez assisté à ces fameuses soirées hollywoodiennes, Anthony?
À pas mal d'entre elles.
Drogue, fornication, adultère, adoration du tout-puissant dieu dollar, adoration du malin, irrespect des lois de Dieu.
Ouais. Et oh, je ne vous raconte pas les soirées les plus chaudes.
Les spectateurs émirent un bruit à mi-chemin du tout sautement et du hoquet étouffé. Le révérend Jimmy Wayne Sutter joignit les extrémités de ses doigts.
À présent, Anthony,
racontez-nous votre histoire.
L'histoire de votre vie. Votre chute dans cette fosse emplie de fange. Votre chute. Et votre rédemption.
Harold eut un petit sourire et les commissures de ses lèvres se retroussèrent brièvement.
Eh bien, Jimmy, j'étais jeune. Jeune et influençable, prêt à me laisser entraîner. Je confesse que l'attrait exercé par cette vie m'a conduit sur de sombres chemins pendant longtemps. Pendant des années.
« Et il y avait des compensations matérielles ?» souffla Sutter.
Harold acquiesça et trouva la caméra qu'il filmait. Il adressa à son objectif un regard à la fois sincère et un peu triste.
« Comme vous l'avez déjà dit ici, Jimmy, le diable a des armes puissantes. L'argent. Plus d'argent que je ne pouvais en dépenser, Jimmy. Les femmes. Des femmes superbes. Des stars au visage célèbre et au corps superbe. Il me suffisait de décrocher mon téléphone, Jimmy. Et cette fausse impression de puissance. Et cette fausse impression de réussite. Et l'alcool. Et la drogue. La route de l'enfer passe parfois par une piscine chauffée, Jimmy.
Amen !
S'écria l'actrice empâtée. Sutter hocha la tête. Prit un air sincèrement soucieux.
Mais, Anthony, ce qu'il y a de plus terrifiant, ce que nous devons surtout redouter, c'est que ce sont ces gens-là qui produisent des films, des œuvres de prétendue distraction pour nos enfants. N'est-ce pas exact?
Vous avez raison, Jimmy. Et ils n'ont qu'un seul but en produisant ces films, réaliser un profit.
Sutter se tourna vers la caméra numéro un qui zoomait sur son visage. Son expression n'avait plus rien d'enjoué à présent. Ses mâchoires prognates, ses sourcils noirs, ses longs cheveux blancs ondulés auraient pu composer le portrait d'un prophète de l'Ancien Testament.
« Et ce que voient nos enfants, chers amis, c'est de la saleté et de l'ordure. Quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, mes amis, nous économisions un peu d'argent pour aller au cinéma de notre quartier, si nos parents nous en donnaient l'autorisation, et nous allions à la matinée du samedi pour y voir des dessins animés. Que sont devenus les dessins animés, Anthony? Et après les dessins animés, nous regardions un western. Ah, vous vous souvenez de Hoot Gibson? Vous vous souvenez de Hopalong Cassidy? Vous vous souvenez de Roy Rogers? Que Dieu le bénisse. Roy était notre invité la semaine dernière, un brave homme, un homme généreux. Et peut-être aussi un film de John Wayne. Et quand nous rentrions chez nous, nous savions que les bons triomphaient toujours et que l'Amérique était un pays d'exception, un pays béni du Seigneur. Vous souvenez-vous de John Wayne dans Alerte aux Marines? Et quand nous regagnons le sein de notre famille, vous souvenez-vous de Mickey Rooney dans Andy Hardy? Quand nous regagnions le sein de notre famille, nous savions que la famille, c'était quelque chose d'important. Que notre pays, c'était quelque chose d'important. Que la bonté, le respect, l'autorité et l'amour du prochain, C'était quelque chose d'important. Que la retenue, la discipline et la maîtrise de soi, c'était quelque chose d'important. Que Dieu, c'était quelque chose d'important.
Sutter ôta ses lunettes à double foyer. Son front et sa lèvre supérieure étaient luisants de sueur.
Et que voient nos enfants aujourd'hui? Ils ne voient que pornographie, athéisme, saleté, ordure. Si vous allez voir un film aujourd'hui, un film interdit aux moins de 16 ans, je ne veux même pas parler de ces obscénités classées X qui se répandent dans tout le pays comme un cancer. N'importe quel enfant peut entrer dans un cinéma de nos jours. Les interdictions aux mineurs ont presque disparu. Mais c'est encore de l'hypocrisie. L'ordure, c'est l'ordure. Ce qui ne convient pas aux moins de 16 ans ne convient pas non plus aux adultes qui respectent Dieu. Mais les enfants vont voir ces films. Oh oui! Et ce qu'ils voient, ce sont des acteurs nus qui ne cessent de jurer, un juron après l'autre, un blasphème après l'autre, et ils voient des films qui insultent la famille, qui la souillent, qui insultent notre pays, qui le souillent et souillent les lois de Dieu, qui se moquent de la parole de Dieu, qui montrent à nos enfants du sexe, de la violence, de l'ordure et des obscénités. Mais que puis-je faire, dites-vous? Que pouvons-nous faire? Et je vous réponds, rapprochez-vous de Dieu. Imprégnez-vous de sa parole. Accueillez Jésus-Christ en vous afin que ces saletés, que cette ordure ne vous atteigne pas. Et enseignez à vos enfants à accepter Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ dans leur cœur, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et alors ces films obscènes cesseront de les séduire. Hollywood, cette nouvelle Gomorre cessera de les séduire. Le Père a remis tout jugement au Fils. Le Père lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, et ceux qui auront fait le mal. Ceux qui auront fait le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 22, 26, 28. Alléluia!
S'écria la foule.
Que Jésus-Christ soit loué!
S'écria le chanteur. L'écrivain apocalyptique ferma les yeux et hocha la tête. L'actrice replète sanglota.
Anthony,
dit Sutter d'une voix à peine audible qui focalisa toute l'attention du public sur lui.
« Avez-vous accepté le Seigneur ?»«
Oui, Jimmy. J'ai trouvé le Seigneur. »«
Et l'avez-vous accepté comme votre sauveur personnel ?»«
Oui, Jimmy. J'ai pris Jésus-Christ dans ma vie. »«
Et vous l'avez laissé vous conduire hors de la forêt de peur et de luxure, loin des fausses lueurs malades de Hollywood ?» Pour qu'il vous conduise à la lueur bienfaisante de la parole de Dieu.
Oui, Jimmy. Jésus-Christ a ramené la joie dans ma vie. Il m'a donné une raison pour continuer de vivre et pour œuvrer en son nom.
Que le nom de Dieu soit loué,
souffla Sutter avec un sourire de béatitude. Il secoua la tête, apparemment bouleversé, et se tourna vers la caméra numéro 3. Le metteur en scène lui adressait des gestes frénétiques.
« Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans un proche avenir, très proche, je l'espère, Anthony va consacrer son talent et son expérience à un projet très spécial du Centre de diffusion de la Bible. Nous ne pouvons pas vous dire grand-chose de plus pour le moment, mais soyez assurés que nous emploierons toutes les merveilleuses ressources d'Hollywood pour apporter la parole de Dieu aux millions de bons chrétiens assoiffés de distractions saines. »
Spectateurs et invités applaudirent cette annonce avec enthousiasme. Sutter se pencha sur son micro afin de couvrir le vacarme.
« Demain, une émission spéciale de musique sacrée. Nous accueillerons Pat Boone, Patsy Dillon, les chanteurs de la Bonne Nouvelle, et bien sûr, Gail et les guitares de l'Évangile.
Les applaudissements se firent plus enthousiastes à l'apparition des prompteurs annonçant la fin de l'émission. La caméra numéro 3 filma Sutter en gros plan. Le révérend sourit.
Au revoir. Et rappelez-vous le verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Dieu aimait tant le monde qu'il lui a donné son unique Fils, pour que tout homme qui croira en lui ait la vie éternelle.
Au revoir! Dieu vous bénisse tous!
Sans attendre la fin des applaudissements, Sutter et Harrod quittèrent le plateau dès que le voyant rouge s'éteignit et traversèrent d'un pas vif des corridors moquetés et climatisés. Maria Chen et Kay, l'épouse du révérend, les attendaient dans le bureau de réception de Sutter.
« Qu'en penses-tu, ma chérie ?»
demanda Sutter. Kay Ellen Sutter était une femme grande et maigre, qui ployait sous le poids de plusieurs couches de maquillage et celui d'une coiffure qui semblait avoir été sculptée plusieurs années auparavant et jamais modifiée depuis lors.
« Merveilleux, mon chéri, excellent !»
Il faudra couper le passage où ce crétin de chanteur a déliré sur les juifs de l'industrie du disque, dit Sutter. Enfin, de toute façon, il y a environ 20 minutes à couper avant que l'émission soit prête à être diffusée.
Il chaussa ses lunettes à double foyer et regarda sa femme.
Où alliez-vous, mesdames?
J'avais envie de montrer à Maria la nurserie et la crèche du dortoir des étudiants mariés, dit Kay Sutter.
Excellent. Excellent. S'exclama le révérend.
Anthony et moi avons encore quelques détails à régler, et ensuite nous vous conduirons à l'avion qui vous emmènera à Atlanta.
Maria Chen lança un regard à Harrod, celui-ci haussa les épaules. Les deux femmes s'enfuirent, Kay Ellen Sutter parlant avec animation. Le bureau du révérend Jimmy Wayne Sutter était immense, richement moqueté et décoré dans des tons subtils, beige et terre de sienne, qui contrastait vivement avec le rouge, le blanc et le bleu omniprésents dans le reste du complexe. Un des murs était entièrement occupé par une baie vitrée donnant sur un pré et un bosquet épargné par les constructeurs. Derrière le fauteuil de Sutter, un mur en teck de 10 mètres de large était littéralement recouvert de photos dédicacées de gens célèbres et puissants, de certificats de mérite, de plaques, de témoignages de reconnaissance, et autres documents attestant le statut et le pouvoir durable de Jimmy Wayne Sutter. Harrod s'affala dans un fauteuil et étendit ses jambes.
Ouf!
Sutter ôta son veston, le posa sur le dossier de son fauteuil en cuir, s'assit, retroussa ses manches et croisa les doigts sur sa nuque.
Eh bien, Anthony, était-ce aussi pénible que vous le craignez?
Harrod passa une main dans ses cheveux récemment laqués.
« J'espère seulement qu'aucun de mes financiers ne verra ce satané machin. »
Sutter sourit.
« Pourquoi donc, Anthony ?
On est mal vu dans l'industrie du cinéma quand on s'associe à une bonne cause ?»«
Non, mais quand on a l'air d'un con, oui. »
Harrod jeta un regard vers la kitchenette située au fond du bureau.
« Je peux avoir un verre ?»«
Bien sûr, » dit Sutter. Ça ne vous dérange pas de vous le servir vous-même, vous connaissez le chemin.
Harrod avait déjà traversé la pièce. Il se servit un verre de Smirnoff, y ajouta des glaçons, et prit une autre bouteille dans le placard habilement dissimulé au regard.
Bourbon,
s'il vous plaît.
Lorsque Harrod lui tendit son verre, le révérend demanda.
Êtes-vous heureux d'avoir accepté mon invitation à passer quelques jours ici, Anthony?
Harrod sirota sa vodka.
Vous pensez que c'était malin de dévoiler nos batteries en me faisant figurer dans votre show?
Il savait déjà que vous étiez ici. Kepler ne vous perd pas de vue, et frère C et lui ne cessent de me surveiller. Peut-être que votre prestation va semer la confusion chez eux.
Elle a sûrement semé la confusion chez moi.
Harrod alla se servir un autre verre. Sutter gloussa et tria quelques papiers sur son bureau.
« Anthony, n'allez surtout pas croire que mon ministère ne m'inspire que du cynisme. »
Harrod cessa de mettre des glaçons dans son verre et regarda fixement Sutter.
« Vous déconnez.
Cette installation est le piège à gogo le plus cynique que j'ai jamais vu.
Pas du tout, dit doucement Sutter. Mon ministère est bien réel. L'amour que m'inspire mon prochain est bien réel. Ma gratitude envers Dieu qui m'a donné mon talent est bien réel.
Harold secoua la tête.
Jimmy Wayne, vous avez passé 2 jours à me faire visiter en long et en large votre Disneyland pour intégristes. Et tout ce que j'ai pu y voir est expressément conçu pour inciter les péquenauds à sortir leur fric de leur portefeuille en simili-cuir. Vous avez des machines destinées à trier le courrier pour mieux repérer les lettres contenant des chèques. Vous avez des ordinateurs capables de lire votre correspondance et d'y répondre à votre place. Vous avez des répertoires téléphoniques informatisés. Vous lancez des campagnes de mailing à faire grimper Dick Vigery au rideau et animez des offices religieux télévisés à côté desquels les vieux épisodes de Mr. Ed ressemblent à des émissions intellectuelles.
Anthony. Anthony, dit Sutter en secouant la tête. Vous devez dépasser le côté superficiel des choses et mieux percevoir la vérité profonde. Les fidèles de ma congrégation électronique sont, pour la plupart, des simples d'esprit, des paysans et des attardés mentaux. Mais cela ne veut pas dire pour autant que mon ministère est une fraude, Anthony.
Ah bon?
Non. J'aime ces gens.
Sutter tapa du poing sur son bureau.
Il y a 50 ans, quand je n'étais qu'un jeune évangéliste, âgé de 7 ans et déjà imprégné de la parole de Dieu, allant de ville en ville avec mon père et ma tante Elle, je savais que si Jésus-Christ m'avait donné le talent, c'était pour une bonne raison, et pas seulement pour faire du fric.
Sutter prit une feuille de papier et l'examina avec ses verres à double foyer.
Anthony, dites-moi qui a écrit ceci à votre avis. Les prêcheurs redoutent les progrès de la science, tout comme les sorcières redoutent l'approche du jour et les présages annonçant la subversion des Dupris qui les font vivre.
Sutter regarda Harold par-dessus ses lunettes.
Dites-moi qui a écrit ceci à votre avis, Anthony.
Harold haussa les épaules.
H.L. Mencken? Madeline Murray O'Hare?
Sutter secoua la tête.
Jefferson, Anthony. Thomas Jefferson.
Et alors?
Sutter pointa un doigt épais sur Harold.
Vous ne comprenez pas, Anthony?
En dépit de toutes les bonnes paroles prétendant que cette nation a été fondée sur des principes religieux, que cette nation est une nation chrétienne, la plupart des pères fondateurs étaient comme Jefferson, des athées, des intellectuels, des unitariens.
Et alors?
Alors ce pays a été fondé par une clique d'humanistes laïcs sans cervelle, Anthony. C'est pour ça que Dieu est interdit de séjour dans nos écoles aujourd'hui. C'est pour ça que nous tuons 1 million de bébés par jour. C'est pour ça que les communistes sont de plus en plus puissants, alors que nous parlons sans cesse de réduction des armements. Si Dieu m'a donné le talent, c'est pour que j'en appelle au cœur et à l'âme de l'homme de la rue, afin que nous fassions de ce pays une nation chrétienne, Anthony.
Et c'est pour ça que vous voulez que je vous aide. En échange de quoi, vous me protégerez de l'Island Club et me soutiendrez auprès de ses membres.
« Si vous me grattez le dos, mon garçon, » dit Sutter avec un sourire, « je protégerai vos arrières. »«
On dirait que vous souhaitez devenir président un de ces jours. Hier, j'ai eu l'impression qu'on ne parlait pas seulement de modifier légèrement la hiérarchie de l'Island Club. »
Sutter écarta les bras, les paumes tournées vers le ciel.
« Quel mal y a-t-il à avoir un peu d'ambition, Anthony ?» Frère C, Kepler, Trask et Cohen se sont mêlés de politique pendant des dizaines d'années. Quand j'ai rencontré Frère C, il y a 40 ans à Bâton Rouge, c'était lors d'un meeting politique de prêcheurs conservateurs. Ce serait une bonne idée que d'installer un bon chrétien à la Maison-Blanche pour une fois.
Je croyais que Jimmy Carter était censé être un bon chrétien.
Jimmy Carter était un minable.
Un vrai chrétien aurait su comment régler son compte à l'ayatollah quand ce païen a osé emprisonner des citoyens américains.
« Œil pour œil, dent pour dent », dit la Bible. « On aurait dû arracher toutes les dents de ces salauds de chiites. »
À en croire le NCPAC, c'est grâce aux chrétiens que Reagan vient d'être élu.
Harrod se leva et alla se servir une autre vodka. Les discussions politiques l'avaient toujours rasé.
« Ridicule !» protesta Jimmy Wayne Sutter. « Ses frères C, Kepler, et cet imbécile de Trask qui ont installé Reagan à la Maison-Blanche. Dolan et le NCPAC sont en avance sur leur temps. Le pays se prépare à un virage à droite, mais il y aura des ratés dans sa course. En 88 ou en 92, cependant, la voie sera toute tracée pour un véritable candidat chrétien.
Vous ? Certaines personnes ne seraient-elles pas mieux placées ?
Sutter eut un rictus.
À qui pensez-vous ?
À ce type de la Moral Majority. Comment s'appelle-t-il déjà ? Falwell.
Sutter éclata de rire.
Jerry a été créé par nos amis extrémistes de Washington. C'est un golem. Quand ses finances seront à sec, tout le monde s'apercevra que ce n'est qu'un tas d'argile. Et d'argile stupide en plus.
Et les autres types, les plus âgés, dit Harrod, essayant de se rappeler les noms des guérisseurs et des charmeurs de serpents qu'il avait pu voir sur les chaînes câblées de L.A.
Rex Hobart.
Humbard, corrigea Sutter.
Et Oral Roberts, je suppose.
Avez-vous perdu l'esprit, Anthony?
Que voulez-vous dire?
Sutter prit un Havane dans un humidificateur et l'alluma.
Les hommes dont vous me parlez ont encore de la bouse de vache collée à leurs bottes. Ce sont de braves péquenauds qui passent à la télé pour vous dire « Plaquez votre corps meurtri contre l'écran, mes amis, et je le guérirai !»
Anthony, pouvez-vous imaginer tous ces furoncles, toutes ces hémorroïdes, tous ces eczémas? Et pouvez-vous imaginer l'homme qui les a bénis en train de rencontrer des dignitaires étrangers et de dormir dans la chambre de Lincoln ?
C'est renversant, en effet, dit Harrod en entamant sa quatrième vodka.
Et les autres ?
Vos concurrents directs, en quelque sorte. Le révérend Sutter croisa à nouveau les doigts sur sa nuque et sourit.
Eh bien, il y a Jim et Tammy. Mais ils sont dans la merde la moitié du temps suite à leurs contrôles fiscaux. À côté de ça, mes ennuis paraissent négligeables. De plus, ils font des dépressions nerveuses à tour de rôle. Je n'en veux pas à Jim. Avec une femme comme la sienne, j'en ferai autant. Et puis, il y a Swaggart en Louisiane.
C'est un malin, Anthony. Mais je pense qu'au fond de lui, il veut devenir une rockstar comme son cousin.
Son cousin ?
Jerry Lee Lewis. Qui nous reste-t-il?
Ah, Pat Robertson, bien sûr. Je pense que Pat va tenter de se présenter en 84 ou en 88.
Il est redoutable.
À côté de son réseau, mon petit projet ressemble à un poste de radio amateur mal branché. Mais Pat a quelques défauts. Les gens oublient parfois qu'il est censé être prêtre. Et Pat aussi.
Tout ceci est très intéressant, mais nous nous éloignons de la raison pour laquelle je suis venu ici.
Sutter enleva ses lunettes, ôta le cigare de sa bouche et fixa Harrod.
Si vous êtes venu ici, Anthony, c'est parce que votre cul est en danger, et que si personne ne vous vient en aide, le club va finir par vous utiliser pour ses petits amusements d'après-dîner sur l'île.
Hé ! Je suis désormais membre à part entière du comité de direction.
Oui, dit Sutter.
Et Trask est mort. Colben est mort. Kepler se fait discret. Et frère C a été très embarrassé par le fiasco de Philadelphie.
Avec lequel je n'avais rien à voir.
Duquel vous avez réussi à vous extirper.
Mon Dieu, quel gâchis.
5 morts parmi les agents du FBI. 6 parmi les hommes de Colben. Une douzaine de noirs du quartier tués, un prêtre local assassiné, des propriétés privées incendiées, détruites.
Les médias ont avalé l'histoire de la guerre des gangs. La présence du FBI a été expliquée par les activités d'un groupe de militants terroristes noirs.
Oui. Et les répercussions de cette histoire se sont fait sentir jusque dans le bureau du maire. Et même jusqu'à Washington.
Saviez-vous que Richard Haynes travaille désormais dans le privé, et dans la discrétion, pour le compte de frère C? Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Accordé.
Jimmy Wayne Sutter eut un large sourire.
Mais comprenez que votre entrée au comité de direction survient lors d'une période délicate.
Vous êtes bien sûr qu'ils veulent se servir de moi pour contacter Willy? Demanda Harold.
Absolument.
Et qu'ils comptent ensuite se débarrasser de moi?
Au sens littéral.
Pourquoi? Pourquoi sont-ils prêts à accepter parmi eux un vieil assassin psychopathe comme Willy?
Je connais un proverbe du désert qui ne figure pas dans les Saintes Écritures, mais qui est assez vieux pour avoir été mentionné dans l'Ancien Testament.
Quel proverbe?
Il vaut mieux que le chameau soit dans la tente et pisse dehors, plutôt qu'il soit dehors et pisse dans la tente,
récita Sutter.
Merci, révérend.
Il n'y a pas de quoi, Anthony. Sutter consulta sa montre.
Vous feriez bien de vous dépêcher si vous voulez arriver à Atlanta à temps pour attraper votre avion.
Harold se hâta de reprendre ses esprits.
Savez-vous pourquoi Barent a organisé la réunion de samedi?
Sutter fit un geste de la main.
Je présume que frère C a l'intention de discuter des événements de ce lundi.
L'attentat contre Reagan?
Oui. Mais, saviez-vous qui se trouvait auprès du président, trois pas derrière lui, quand le coup de feu a éclaté?
Harold haussa les sourcils.
Oui, frère C en personne. J'imagine qu'il aura beaucoup de choses à nous dire.
Nom de Dieu. Jimmy Wayne Sutter grimaça.
Je vous interdis d'insulter le nom du Seigneur dans cette pièce, ordonna-t-il sèchement. Et je vous déconseille de le faire en présence de frère C.
Harold se dirigea vers la porte, s'immobilisa.
Au fait, Jimmy, pourquoi appelez-vous Barent frère C?
Parce que C. Arnold Barent ne supporte pas que je l'appelle par son nom de baptême.
Harold avait l'air stupéfait.
Vous le connaissez?
Bien sûr. Je connais frère C depuis les années 30. Une époque où nous étions encore enfants tous les deux.
Quel est son nom de baptême?
En bon chrétien, C. Arnold a été baptisé Christian,
dit Sutter avec un sourire.
Hein?
Christian,
répéta Sutter.
Christian Arnold Barent. Son père était croyant, même si frère C ne l'est pas.
Le diable m'emporte, dit Harold. Et il s'éclipsa avant que Sutter ait eu le temps de réagir.